de cette première semaine d'audition sera Marie Yovanovitch, l'ancienne ambassadrice américaine en Ukraine, rappelée sans cérémonie à Washington en mai dernier, après que Giuliani et ses alliés eurent mené ce que ses collègues et démocrates ont décrit comme une campagne de diffamation à son encontre. La commission tiendra 3 jours d'audition publique avec 9 autres témoins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Parmi les prochains appelés, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, l'ambassadeur Kurt Volker, le lieutenant-colonel Alexander Vindmand et également l'ancienne directrice principale du Conseil de sécurité nationale, Fiona Hill. La Chambre des représentants des États-Unis au complet devrait organiser un vote sur les chefs d'accusation d'ici la fin de l'année. La décision qui déclencherait de facto un procès du président Trump au Sénat américain afin de décider s'il doit être démis de ses fonctions.
Voilà. Merci beaucoup, Arzuma, pour ces éclaircissements. Et pour le débat, à présent, nous avons 3 invités. Avec moi ici, René Lecq, journaliste administrateur de CNN+, entre autres, analyste politique. Merci d'être avec nous.
Merci bien, Abdou, pour l'invitation. Voilà.
Et dans le Maryland, dans la région de Washington, un ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, Claude Porcella. Et à Bakersfield, en Californie, Denis Beaver, avocat basé sur place. Bonsoir à tous. Je commence avec vous, René. Les auditions ont démarré hier avec des témoins clés, comme on le dit. Certains parlent de témoins stars. Est-ce qu'ils ont fait le boulot, entre guillemets, pour les démocrates?
Écoutez, je crois que l'idée pour les démocrates, c'était d'amener d'abord que leurs premiers témoins soient des gens qui ne soient pas très colorés politiquement. En fait, qui ne soient pas colorés politiquement du tout. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'amener ces deux experts, ces deux professionnels de la diplomatie américaine, qui ont servi à la fois des présidents républicains et des présidents démocrates. Donc, de ce fait, l'idée, c'est qu'on ne puisse pas les accuser de parti pris ou d'opérations partisanes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois que l'un des aspects les plus importants de ce qui s'est passé jeudi matin, ça a été la révélation par l'ambassadeur Taylor d'un coup de fil que le président Trump aurait passé à l'ambassadeur Sondland et qui aurait été entendu par un de ses assistants. Dans un coup de fil dans lequel Donald Trump demandait des nouvelles des investigations, avec un S à investigation. Donc, beaucoup de démocrates, beaucoup de critiques du président ont considéré que cette nouvelle information était majeure.
D'accord. Alors, Claude, quand Bill Taylor dit que Donald Trump s'intéressait plus à l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden qu'à la situation même en Ukraine, et quand des millions de personnes entendent des déclarations comme ça directement à la télé, qu'est-ce que cela peut avoir comme effet?
Peut-être tout dépend. Je pense pas que ces auditions aient fait changer d'opinion les Américains. Ceux qui sont partisans de la destitution du président continuent de l'être, et ceux qui s'y opposent, je pense, n'ont pas encore été convaincus que véritablement il y a eu abus de pouvoir et que cela pourrait justifier la destitution du président. Votre correspondant l'a indiqué, il y a encore 9 autres témoins. Est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas. Mais il faut bien se mettre dans la peau de ces millions d'Américains qui ont suivi le débat hier. Pour beaucoup, c'est une affaire. Vous savez, si vous habitez dans le Midwest, vous ne vous intéressez pas beaucoup à ce genre de choses. Ces débats, c'est essentiellement pour un public washingtonien, pour les élites. Alors quand l'ambassadeur Taylor parle du danger en gelant l'aide militaire à la Russie, à l'Ukraine, pardonnez-moi, ça pose un problème de sécurité, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour les États-Unis et leurs alliés. Je pense que ça passe un peu au-dessus de la tête de l'Américain moyen.
D'accord. Et vous, Denis Beaver, êtes-vous convaincu par ce que vous avez entendu ou vu hier des diplomates qui semblent incriminer des proches du président?
Je pense pas. Alors, vous savez que le fils du Biden, Hunter Biden, Hunter c'est chasseur, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il chassait? Du fric, du pognon. À mon avis, Trump avait bien raison de poser des questions, puisque une question de corruption. Tu as le fils d'un mec qui veut devenir président. Alors c'est dangereux. À mon avis, la plupart des Américains sont pour Trump, pensent que c'est vraiment politique, blablabla, et on s'en fiche complètement.
Vous n'êtes pas du tout convaincu par cette procédure, alors, si je vous comprends bien.
C'est, si j'ose le dire, hein, c'est pas très gentil, mais une bande de connards. C'est vraiment...
On va essayer de se respecter quand même. René, et notre ami Dennis Beaver n'est pas du tout convaincu. Il y a quand même des millions d'Américains qui veulent savoir ce qui se passe.
Écoutez, ce que Claude a dit tout à l'heure, je crois, est intéressant quand il dit qu'au fond, il faut qu'on fasse très attention. Il y a 2, 3, 4, je ne sais combien d'Amérique. Et c'est vrai que quand on vit un peu comme nous ici, sur la côte nord-est des États-Unis, dans le couloir Boston, New York, Washington, jusqu'à Miami, la réalité n'est pas tout à fait la même quand on est au milieu du pays, à l'intérieur du pays, interland, comme on dit. Et c'est vrai que les perceptions ne sont pas tout à fait les mêmes. Je crois que ces deux Amériques...
Est-ce que c'est ce qui a poussé peut-être Nancy Pelosi à hésiter pendant longtemps?
Exactement. Je pense qu'elle savait que, bon, les libéraux, les démocrates, même certains indépendants en zone urbaine étaient plus ou moins convaincus par rapport à cette question de la destitution, mais ce n'était pas le cas pour l'essentiel de l'Amérique profonde, comme on dit. Donc je crois que ça, c'est intéressant. Mais le dernier, je voudrais rapidement réagir à ce que disait Denis. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que les démocrates doivent faire très attention, hein, parce qu'à terme, il ne faut pas oublier que la question de Hunter Biden et la question de sa position dans un conseil d'administration de la société d'électricité en Ukraine, alors que son background ne le justifie pas, c'est quelque chose qui va se poser à un moment et qui va se retourner contre Biden, je pense, à un moment ou à un autre.
D'accord. Très intéressant à suivre en tout cas. Claude, les républicains disent que les démocrates cherchent à destituer un président qui est dûment élu, mais le leadership démocrate aussi courait le risque de fâcher un peu sa base. Donc ce n'était pas très facile, comme je le disais tout à l'heure, pour Nancy Pelosi. Finalement, il faut quand même, il y a des procédures qui existent, il fallait prouver peut-être qu'ils sont là, les démocrates. C'était pas ça l'objectif?
Oui, écoutez, l'objectif de ces auditions publiques, c'est de sensibiliser une opinion qui jusqu'à présent ne comprenait pas exactement ce qui se passait, quels étaient les enjeux. Donc les démocrates prennent un risque, hein, il faut bien dire. Parce que,
c'est une bataille de l'opinion.
Ils essaient, n'est-ce pas, de montrer que parmi des gens très, très crédibles comme Taylor ou comme Kent, que ce sont des gros responsables, des fonctionnaires très honnêtes qui n'appartiennent pas à un parti ou à un autre, que les accusations qu'ils portent, n'est-ce pas, sont justifiées. Est-ce que ça va marcher ou non? Comme je le disais, pour le moment, l'aiguille n'a pas beaucoup changé de sens. Hein. Chacun reste campé sur ses positions. Pour revenir à ce que disait Denis, c'est tout de même George Kent a tout de même dit qu'il avait exprimé ses réserves à propos de cet emploi de fils
de Hunter.
Hunter. Parce que, évidemment, ça donnait une impression de conflit d'intérêts. Et beaucoup pensent que c'est vrai, là, c'est franchement un manque de jugement de la part du fils du vice-président d'avoir accepté un job
pour
lequel il n'était pas particulièrement qualifié et qui lui rapportait tout de même $50,000 par mois. Donc c'est évidemment un point un peu faible dans la conversation, dans la discussion.
Ouais. D'accord. Alors Denis, la Maison-Blanche a empêché quand même plusieurs collaborateurs et ex-collaborateurs du président de témoigner. Pourquoi ne pas simplement laisser tout le monde venir dire publiquement ce qu'ils savent de cette fameuse conversation téléphonique entre le président et Zelensky, par souci de transparence?
C'est une question de privilège du président. Il a le droit d'empêcher les gens de raconter ce qui se passe dans le White House, dans la Maison Blanche, je crois.
D'accord. Donc vous pensez qu'il utilise un peu son privilège, privilège présidentiel, comme on dit?
Exactement.
René Lec,
oui, en fait,
je vois que vous vouliez réagir
oui,
par rapport
oui,
à ça.
Oui, je vais réagir par rapport à ce point parce que c'est intéressant, parce que l'un des principaux arguments aujourd'hui des Républicains dans leur défense de Trump, c'est de dire, écoutez, toutes ces informations, tout ce qui a été dit pendant les sessions à huis clos comme celle publique, ce sont des informations de seconde main. En fait, c'est un tel qui a entendu dire d'un tel qui a dit à un tel, etc. Il y a même eu pas mal d'humour autour de cela. Donc, c'est un argument essentiel, mais l'une des réponses des démocrates, c'est de dire, mais écoutez, les personnes qui ont l'information directe venant de Trump, Trump nous empêche de pouvoir leur parler, avec justement en utilisant cette clause-là de privilège exclusif du président de la République.
L'exécutif, ouais. Voilà. D'accord. Et Claude, rapidement, peut-être avant de passer aux réactions de nos téléspectateurs, l'opinion publique est divisée, hein, comme on le disait tantôt. Qu'est-ce qui peut faire basculer disons les choses d'un côté ou d'un autre?
Écoutez, ça peut encore évoluer. Évidemment, ces auditions publiques sont un peu réminiscentes des auditions du Watergate. Et quand ces auditions en 1974 ont commencé, il n'y avait que 24% à peu près des Américains qui pensaient que Nixon devrait être effectivement destitué. Et puis, au fil des semaines, ça avait duré quand même pas mal de temps, je crois plusieurs mois, hein, les auditions, la maison d'accusation, toute la procédure. Tout d'un coup, ça avait sérieusement basculé. Vous avez tout d'un coup 64% des Américains qui pensaient que finalement, oui, Nixon méritait d'être destitué. Donc, qui sait, nous avons encore 9 témoins. C'est encore pas mal. Mais très honnêtement, je n'ai pas l'impression, même si certains républicains décident finalement que ce qu'a fait Trump n'était pas correct, n'était pas parfait, change d'avis et dit oui, ça mérite tout de même une mise en accusation et un procès. Ça sera tout de même un pourcentage infime.
Vous n'y croyez pas trop, hein?
La grosse différence, vous, Abdou, entre 1974 et 2019.
On pourrait, Claude, si vous permettez, on pourrait éventuellement revenir sur la comparaison avec Nixon. Je vous propose des réactions de quelques-uns de nos auditeurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Ousmane le Catalan à Yamoussoukro écrit: le président Trump pense qu'on gère les États-Unis comme une entreprise. Les démocrates ont raison de chercher à le destituer. Batuno Élysée à N'Djamena au Tchad pense que les démocrates cherchent plutôt à gagner les élections à venir et ils sont prêts à tout pour éliminer l'actuel président de la course, car c'est un adversaire de taille. Et puis Jonathan à Kinshasa dit que les États-Unis plaident souvent pour le dialogue en Afrique. Leur solution chez eux serait aussi de dialoguer, car aucun camp ne gagnera dans cette bataille politique. Voilà donc quelques-unes des nombreuses réactions de nos téléspectateurs sur Facebook. Merci de rester fidèle à Washington Forum qui revient dans quelques instants. Washington Forum, Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités, avec moi ici René Lec, journaliste, administrateur de CNEPLUS, analyste politique, dans le Maryland, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Bakersfield, en Californie, Dennis Beaver, avocat, basé sur place. La bataille entre démocrates et républicains autour d'une éventuelle mise en accusation du président est suivie de près en Afrique. On va à Lomé suivre quelques réactions de Togolais recueillies par notre correspondante sur place, Kay Lawson.
Pour moi, elle est tout à fait normale parce que Trump déjà avait son arrogance dans ses manières de faire et voilà qu'il expose un abus de pouvoir. C'est tout à fait normal de déclencher, mais d'enclencher cette procédure de destitution. Et là aussi, on voit que c'est un président qui n'était pas vraiment accueilli par, disons, la majorité de la population du monde qui ne s'attendait pas à voir Trump comme président. C'est tout à fait normal, cette procédure.
Je crois que c'est une bonne idée d'entamer cette procédure de destitution. J'ai suivi toutes les décisions que Trump et son gouvernement ont fait depuis qu'il a pris pouvoir en 2016, je crois. Et je crois qu'il y a plusieurs décisions qui nuisent non seulement aux États-Unis, mais aussi au monde entier. Et non seulement ça, mais tout le racisme, sexisme et misogynie. Une personne comme ça ne devrait pas être à la tête de la première puissance au monde.
Le Parti démocrate a trouvé une opportunité d'encore décrédibiliser ce président. Je pense qu'ils essaient de juger le président alors que nous n'avons pas de claire évidence qu'il a vraiment commis ses actes. Je pense qu'ils ont en tête les élections de 2020 qui se rapprochent et ils ont peut-être peur que M. Donald Trump soit encore élu. Donc ils essaient de le discréditer devant la population américaine et devant son électorat.
Je crois que si cette stratégie a été mise en place pour que le président soit enlevé, c'est parce qu'ils ont fait des remarques et ils ont constaté que voilà, ils ont eu des problèmes diplomatiques.
Il est élu par la population aussi, il ne faut pas oublier ça. Et si les démocrates agissent autrement pour lui destituer, pour lui enlever dans sa poste, il risque aussi que le gars revienne dans son deuxième mandat quoi, pour continuer. Parce qu'il va profiter de là et de cela pour être élu par la population encore pour le deuxième mandat.
Donc des débats très suivis sur le continent. Alors on revient un peu sur la question ici, René. Le Congrès qui a le pouvoir d'enquêter sur les actions du président, voire même le destituer, ce pouvoir de contrôle finalement, il est très limité quand on voit la polarisation, disons, au Capitole et même dans le pays. C'est difficile d'avoir une majorité.
Oui, en tout cas, en ce moment-ci, c'est d'autant plus difficile que les démocrates contrôlent la Chambre des députés et les républicains, où devra se passer le procès de destitution s'il y en avait un. Et le Sénat, donc, est contrôlé par les républicains. Donc c'est sûr que là, on est dans une situation de déséquilibre, d'équilibre, on peut dire, d'un côté, mais également de déséquilibre en termes des options des démocrates.
Rapidement, on a vu des réactions en Afrique. Est-ce qu'il y a moyen de faire un parallélisme, par exemple, sur ce qui se passe sur le continent, ce pouvoir quand même de contrôle du président? Mais c'est assez intéressant.
Oui, moi je crois que c'est intéressant parce que ce qui est assez amusant, c'est que depuis l'élection de Trump, souvent beaucoup d'Africains disent « Ah, vous voyez que la tendance à l'autocratie dans les régimes politiques… »
Il est très populaire aussi.
Il est très populaire, mais justement, l'un des arguments, c'est de dire « La tendance à l'autocratie dans tous les pays du monde, ça existe, y compris aux États-Unis. » Ce qui est peut-être vrai, mais ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, on a beau dire, les institutions marchent. La preuve, c'est qu'on se trouve dans une situation où le Congrès met en mal, en difficulté en tout cas, le président de la République. Est-ce qu'ils y arriveront? Je n'en sais rien, c'est difficile de prédire pour l'instant, mais en tout cas, le système fonctionne, les institutions marchent.
D'accord. Et Claude, vous parliez tantôt du président Nixon, hein, mais à l'époque, il y avait une sorte de consensus. Ici, chaque parti campe sur ses positions. Quelles sont les chance de voir un peu les lignes bouger, si on peut le dire ainsi.
Oui, tout à fait. Comme je le disais, en 1974 et quand on compare avec 2019, à cette époque, on pouvait encore avoir un dialogue et on voyait fréquemment les républicains et les démocrates négocier ensemble. Maintenant, c'est plus possible et malheureusement, ça ne se limite pas aux politiques, mais ça se ressent également au niveau de la nation, de l'Américain moyen. Chacun a des idées bien déterminées et personne n'accepte de dialoguer ou d'essayer de comprendre l'autre partie. René faisait allusion à un procès éventuel. Je crois que les républicains sont maintenant complètement convaincus qu'il y aura effectivement un procès, que la Chambre va voter les articles de destitution. Que feront les républicains? Les démocrates disent s'ils ont une conscience, ils condamneront le président. Mais pour le moment, rien n'indique que les républicains sont décidés à changer de position. Ils sont vent debout derrière leur président et il est très probable que Trump ne sera pas destitué.
D'accord. Et vous, Dennis Beaver, vous pensez que cette procédure d'impeachment aura des conséquences sur les élections à venir?
Je pense pas. Je crois que Trump a une bonne possibilité de gagner l'élection. Alors, vous savez, depuis son élection, les démocrates voulaient le foutre à la porte. Depuis the first day, comme on dit, hein, depuis son élection. Et ça continue. D'abord, ça a été la Russie, la corruption, complot, tout ça.
Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Parce qu'il y a eu d'autres démocrates, d'autres présidents républicains avant. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait, comme vous le dites, que les démocrates veulent coûte que coûte le destituer?
J'ai pas compris la question.
Pourquoi ils veulent, selon vous, les démocrates cherchent coûte que coûte à le faire partir, comme vous le dites?
Puisqu'il n'est pas comme les autres. Hein. C'est un homme d'affaires d'abord. Trump, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui fait. Il fait des choses, il accomplit des choses. Et c'est pas comme ça que Washington marche. Donc lui a été un vrai outsider, comme on dit, hein, quelqu'un qui venait de loin. C'était pas leur copain. Il voulait changer les choses. Qu'il a fait? Et donc, à mon avis, c'est une preuve d'un plus ou moins complot contre lui depuis son élection. C'est ce que beaucoup d'Américains voient, c'est ce que beaucoup d'Américains pensent. C'est une guerre contre Trump.
D'accord, merci beaucoup. Alors, René, qui pourrait finalement tirer profit de tout cela?
Bon, d'abord, si on veut rester un peu philosophique, je dirais l'Amérique, parce que les institutions fonctionnent et marchent. Mais au-delà de ça, au plan politique...
C'est le plan purement politique.
C'est le plan purement politique. Tout va dépendre de ce qui se passe au Sénat. Si la destitution n'est pas prononcée, ce qui est peu probable, hein, comme on l'a si bien dit dans cette émission, je crois que les démocrates pourraient être en difficulté. Je pense que l'opinion publique pourrait éventuellement se retourner un peu contre eux, comme ça s'est passé à l'époque avec Clinton,
ouais.
Mais si effectivement on a l'opinion publique
explosive,
éventuellement, et que l'opinion publique arrive jusqu'à 57, 58, jusqu'à 60% pour la destitution, alors là, Trump sera en très très grande difficulté.
Et vous, Claude, qui peut tirer profit de tout cela?
C'est très difficile à dire. Denis parlait de la réélection de Donald Trump. On ne peut pas l'exclure. Vous savez, si l'économie reste bonne, et quand on voit le désarroi des démocrates qui souffrent d'un surplus de candidats, un nouveau vient de s'ajouter déjà à la liste, ils sont maintenant 18, et personne n'arrive vraiment à sortir du lot. Les chances de Donald Trump restent relativement bonnes pour être réélu.
Et vous, Denis, vous pensez que toute cette procédure, tout ce que le président parle de cirque, vous pensez que tout cela finalement va galvaniser les troupes, disons, au sein du Parti républicain?
Je pense, oui, tout à fait. C'est exactement ce que je pense. C'est plus ou moins, c'est rigolo quand on écoute leur témoignage. Il n'a pas fait grand chose. Au contraire, il a été, à mon avis, il était obligé de poser des questions sur ce monsieur Hunter, ce chasseur Biden.
Chassait
quoi? Oh non.
Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook et sur Internet, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.